Conférence privée du noviciat par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, 19 février 1993.
Nous allons continuer à essayer d'entrer dans ce que représente l'esprit de virginité. Voyez bien, il y a l'esprit de pauvreté, il y a l'esprit d'obéissance, il y a l'esprit de virginité. Parce que les vœux peuvent être vécus à trois niveaux. Et ils demandent même d'être vécus à trois niveaux. Et commençons ceux qui progressent. Et ceux qui arrivent à la perfection. Et c'est pas, vous voyez, 5 ans, 10 ans, puis le reste. Et on ne met pas sur les verbes mortuaires qu'il était arrivé à l'union transformante. Les vœux sont une arme. C'est une arme, les vœux. Il faut apprendre à bien manier. Une arme contre les concupiscences. Il y a trois concupiscences, il y a trois vœux. Des armes légères, les armes du petit David. Dès qu'on est appelé à la vie religieuse, on est le petit David. Donner une armure humaine. Et l'armure humaine, c'est prendre les méthodes de l'adversaire. Très très curieuse. Des méthodes trop humaines, des méthodes trop psychologiques. Il y a des méthodes psychologiques pour la chasteté, il y a des méthodes psychologiques pour la pauvreté, il y a des méthodes psychologiques. Ça, c'est l'arme du roi, Saül. Et puis David y va avec sa fronde. C'est pas psychologique, ça. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le psychologisme. Il faut connaître la psychologie. Surtout par rapport aux autres. Par rapport à ce mois-ci, vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez. Il ne faut pas tomber dans... Parce que ça se fait actuellement. Hein. Au Canada, je l'ai vu, moi. Et ça se fait sûrement aux États-Unis, et ça se fait après en Europe. Hein. Parce que ça arrive. Il y a des vents, ça, qui viennent. Ils font le tour. Les vœux sont des moyens divins chrétiens pour progresser. On tend vers la perfection. Un religieux tend vers la perfection. C'est pour ça que quand il est évêque, et l'évêque est dans un état de perfection, il est au-delà de la vie religieuse. Un religieux devenant évêque n'est plus religieux. C'est curieux, tu vois. Et en orthodoxie, chez les orthodoxes, les évêques sont toujours des religieux. Puis troisième aspect, les vœux sont vécus mystiquement par rapport aux vertus théologales. Et alors vous avez nettement les trois niveaux. Le niveau des luttes, de ce qu'on doit abandonner, les commençants, c'est ce parfait.
En Afrique, les religieux appartiennent.
laisse à l'extérieur, selon l'état de pauvreté, comme plus riche que des quantités de chrétiens. C'est ce que me disait le père Louis-Marie quand j'allais à Beauvauville. C'est nous sommes les gens riches du village. C'est gênant. Et vouloir, et ça tous les missionnaires me l'ont dit, vouloir se mettre à vivre la pauvreté des gens du pays. Ils m'ont dit, ça je vous conseille pas de dire ça. Ils ne tiendront pas. Et on comprend très bien ce qu'ils veulent dire, tu vois. Et ceci c'est vrai pour tous les pays où il y a de la misère. Au Brésil, on m'a dit la même chose aussi. Et là, c'était un prêtre ouvrier. Il m'a dit, ce sont des jeunes qui viendront. Ils sont très zélés. Il ne faut surtout pas qu'ils se mettent au stand-in de vie des pauvres. Ils ne tiendront pas. Mais, oui, la prudence, c'est pour ça que les trois vœux sont vécus, sont incarnés de trois façons. Incarnation, vous voyez, l'esprit est le même pour les frères, pour les sœurs, pour les oblats, c'est le même esprit. La charte de charité, c'est la charte de l'esprit de la congrégation Saint-Jean. Et elle exprime ce que doit être l'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté et l'esprit d'obéissance. C'est le même. Même pour les gens mariés qui sont oblats. Ils sont le même esprit. C'est la même famille. Et l'incarnation de cet esprit est différente. Chez les frères, chez nos sœurs contemplatives, chez nos sœurs apostoliques. Alors, je ne parle pas des oblats, puisque là, au sens strict, ils ne sont pas religieux, ils vivent de l'esprit de la vie religieuse. Donc l'incarnation est tout à fait différente. Un oblat qui vit dans une très grande pauvreté ancestrale, et un oblat qui vit dans de très grands biens ancestrales. Ça n'a pas d'importance. Vous leur demandez d'exercer la prudence chrétienne, surnaturelle, pour voir comment ils vont incarner l'esprit de pauvreté. Mais vous n'allez pas imposer aux oblats, vous donnerez 10% de vos revenus. On serait plus dans la misère. La dîme. Nous sommes de l'Ancien Testament là-dessus. On ne dira jamais ça. Et vous voyez, c'est très curieux parce que dans le renouveau, il y a des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est du Saint-Esprit. Je ne suis pas à juger, je ne suis pas dedans. Mais je n'oserai jamais faire ça. Et je crois qu'on ne doit pas le faire. Si vous donnerez 10% de vos revenus aux oblats, non. On doit, vis-à-vis de la pauvreté, être très très souple. Et ne jamais juger un foyer oblat la manière dont il vit. C'est sa prudence et le chef de famille ainsi que la matrone de famille, n'est-ce pas, c'est elle qui commande tout. Alors on la grâce de voir comment il faut exercer la, comment il faut incarner l'esprit de pauvreté par rapport aux enfants.
ça, c'est parce que c'est très important pour nous. On ne doit surtout pas projeter sur nos familles ce que nous vivons. Surtout pas. Surtout par rapport à la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est la chose la plus manifeste. Mais on doit, par contre, alors ça c'était au chapitre, c'était dit avec beaucoup de netteté, on doit, par contre, dans nos prieurés, dans les façades des prieurés, dans les maisons des prieurés, dans l'intérieur des prieurés, il doit y avoir un style de vie pauvre, un standing de vie pauvre. Ça, c'est... Et on doit quelquefois demander à nos oblats laïcs qui sont du pays, est-ce que ça scandalise? Est-ce que c'est vraiment pauvre? Est-ce que n'importe qui pourrait venir là faire une retraite sans être scandalisé? Je crois que ça c'est très important. Je crois que le Christ nous demande ça, la pauvreté. Il faut que la pauvreté aide la vie apostolique. Et surtout que l'incarnation d'esprit de pauvreté ne soit pas telle que ça devient un obstacle. Et ça c'est vrai aussi pour les contemplatifs. Encore plus peut-être. Parce qu'on supporte plus difficilement de voir des contemplatives vivre dans un palace. Et on ne sait jamais, ça va arriver, parce qu'il peut y avoir tel ou tel contemplatif qui a pris le cœur d'un homme extrêmement riche. Il dit, je vous construis un petit prieuré. Ce petit prieuré, c'est un petit bijou. Il faut refuser. On ne vit pas là. On vit dans une maison de pauvres. De pauvres, vous voyez, simples, propres. La pauvreté réclame la propreté. Et plus on est pauvre, plus il faut la pauvreté. La propreté. C'est extraordinaire, ça. Faut pas que nos prieurés soient sales. C'est contraire à l'esprit de pauvreté. Et c'est contraire à l'esprit d'accueil. Même si la Sainte Vierge est apparue à Bernadette, dans un lieu qui n'était pas très 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 beau, ça, c'est la Sainte Vierge pour Bernadette. Elle s'est adaptée à Bernadette. Elle n'a pas vécu là. Elle est apparue là. Alors, l'apparition, c'est Permodo, 3010. C'est un mode de passage. C'est tout à fait différent. Nazareth devait être très simple. La maison d'un artisan du temps. Très simple. Et ça, ça dépend du temps, oui, ça dépend de la... Et c'est vrai, c'est très variable. Vous habituez à ne pas juger de l'extérieur. L'esprit de virginité, donc, c'est ça qu'on doit regarder toujours en premier lieu. L'esprit de virginité, c'est la marque au plus intime de notre volonté, de notre cœur, de la jalousie du Christ époux. Là, ça fait toujours curieux pour l'homme, parce qu'il dit, alors, Jésus est époux, je suis épouse, alors faites attention, hein. Prenez pas le style de l'épouse, en disant, le Christ, je suis l'époux du Christ. Parce que vous feriez ça sans aucune grâce. C'est affolant. Alors, faut surtout pas. Mais il faut comprendre tout simplement le symbolisme employé par l'Esprit Saint. Et le symbolisme employé par l'Esprit Saint est net. Et l'Église le maintient. Alors il faut comprendre que l'esprit de virginité, c'est comprendre cette jalousie de l'époux. Une jalousie de l'époux en mettant entre guillemets la jalousie divine. Tout à fait différente ancien terme. Enfin, je visitais le musée avec quelqu'un qui était de la ville, dont le grand-père était français, et qui avait été envoyé par le gouvernement français, là-bas, comme médecin. La veuve était tombée malade. On lui a demandé de la soigner. Il l'a soignée. Et après, le sultan lui a dit, vous savez bien, je vous aime beaucoup, mais je suis obligé de vous empoisonner. Parce que vous avez vu la favorite. Mais faut comprendre ce que ça représente. Et c'était la petite fille, la petite fille de qui disait ça, et qui m'a montré le portrait de ce sultan. Et alors, le sultan avait ça largement. Je serai là pour donner, pour charger de votre épouse et de vos petits-enfants. Je les éduquerai comme si c'était mes enfants. il était extrêmement riche, le sultan. Prodigieusement riche. Parce que tout le musée actuel, c'est toute la richesse du sultan. C'est bien tout ce qu'il avait. C'est fou comme richesse. Invraisemblable. De pierres précieuses. Alors, voyez, la jalousie. Parce que c'est là où on voit ce que c'est. La jalousie. On sait très bien ce que c'est du reste. Hein. On n'accepte pas qu'un autre puisse, tant soit peu, empiéter. C'est l'inverse du partage. Dans un état démocratique, on tombe dans le partage, le partage, le partage. En oubliant la loi. C'est... Oui, viens. Alors, la jalousie divine exprime non pas du tout ce côté exclusif, passionnel. L'analogie porte uniquement sur le fait que cet amour doit être total. Et dans une intensité absolue, sans limite. Donc c'est la ferveur. Voilà, il faut toujours se rappeler ça, la théologie de l'esprit de virginité, c'est pour répondre à la jalousie du Père sur son Fils bien-aimé et sur nous. Et la jalousie de l'amour du cœur du Christ sur nous. C'est ça l'esprit de virginité. Tout chrétien devrait vivre de l'esprit de virginité. Puisque c'est le fruit du don d'intelligence. Bienheureux les cœurs purs. Tout chrétien. Il y a quelquefois des gens mariés qui vivent d'un esprit de virginité plus grand que des religieux et des religieuses. Ah, très frappant de voir ça. Vraiment, l'amour de Dieu, l'amour du Christ pour elle, c'est tout. Aussi bien des hommes que des femmes. Bien évidemment, les femmes ont un sens plus aigu vis-à-vis de ce que représente cette jalousie de l'amour divin. Il ne faut pas tomber dans la caricature. L'Esprit Saint n'aime pas les caricatures. L'Esprit Saint n'en fait pas, parce que c'est de l'intérieur qu'il travaille. L'âme. L'esprit de virginité, c'est l'exigence de ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai dans l'amour. Dans l'amour de Dieu. Dans cet amour personnel. Et c'est l'aspect personnel de l'amour, la jalousie. Qui fait que c'est le lien personnel. Et on prend cet aspect symbolique de l'époux et de l'épouse pour qu'on comprenne mieux ce côté personnel et unique. Et il faut que ce soit unique. On doit aimer Dieu comme s'il est le seul aimé. Et tous les autres pourraient disparaître. Notre cœur serait uniquement lié à Dieu. Et cela lui suffirait. C'est ça l'esprit de l'infinité. Alors, il ne s'agit pas de faire cette petite opération. Je vais supprimer tout ce qui est autour de moi pour voir si vraiment j'aime Dieu. D'un esprit de virginité, ne faites pas ça. Parce que l'esprit de virginité fait qu'on aime aussi tous ceux que Dieu aime du même amour. Ça, c'est l'esprit de virginité chrétien. Et donc l'esprit de virginité passe à travers la charité fraternelle. On aime ses frères d'un esprit de virginité. Quand on les aime comme Dieu les aime. Et c'est pour ça que l'esprit de virginité peut exister dans le mariage. Et c'est qu'à la place d'aimer l'autre directement, on l'aime à travers le cœur du Christ. Et dans le cœur du Christ, et dans le cœur de Marie. Et à ce moment-là, on sait très bien qu'il n'y a pas de limite à cet amour. Mais c'est toujours à travers le cœur du Christ. Parce que j'aimerais jamais mon frère, n'importe lequel, celui que Dieu met tout proche de moi. Je n'arriverai jamais à l'aimer avec l'intensité de l'amour du Christ pour lui. Or l'esprit de virginité demanderait que je l'aime avec cette même intensité. Ça, il faut découvrir ça profondément. C'est très très important. Parce qu'autrement, on risque de faire une caricature de l'esprit de virginité. Et la caricature de l'esprit de virginité, je vous le disais, c'est la vieille fille, c'est le vieux garçon. Ah, je n'aime que Jésus. Et tous les autres, c'est rien du tout. Alors, une espèce de mépris souverain à l'égard de tous les autres. Parce que c'est pas Jésus-Christ. En disant mon cœur est consacré à Jésus, mon cœur veut rester virginal et par le fait même je méprise tous les autres sauf le Christ. Et ça c'est la caricature. C'est ce qui s'est passé une fois, je me souviens, c'est pendant les vacances de... C'était chez les Dominicains, ça peut arriver, je prends chez les Dominicains comme ça, je ne regarde pas ici. Alors, il y avait les jeunes pères qui étaient des prêtres et qui continuaient leurs études pendant 2 ans, donc ils étaient vraiment avec les étudiants. Alors, il y avait, comme tout le temps, quand c'est comme ça, il y avait les exigences de ces épluchages. On le sait, ils sont ici, on connaît ce que c'est. Alors, des jeunes pères qui venaient d'être consacrés prêtres, ah non, je ne vais plus éplucher. Parce que j'ai mes mains consacrées. Vous voyez, je donne cet exemple, c'est très significatif. On n'aime plus ses frères ou ses sœurs parce qu'on est consacré à Dieu. Alors ça, c'est la caricature démoniaque de l'esprit de virginité, de la béatitude des cœurs purs. On voit très bien ça. L'esprit de virginité, c'est donc ce regard intérieur. Seul l'Esprit Saint peut sonder et savoir l'intensité de l'esprit de virginité dans notre cœur. Et on doit en avoir un très très grand désir. C'est ce qui est d'une certaine manière l'esprit des vœux par excellence. Tout est orienté vers ça. d'aimer Dieu d'une manière virginale. D'aimer Dieu et d'aimer le prochain d'une manière virginale. C'est-à-dire les aimer avec une intensité unique. L'esprit de virginité, c'est de vouloir aimer Jésus et le Père et nos frères. De les aimer dans la lumière et dans l'exigence directe de l'amour du Christ et de l'amour du Père. C'est le don d'intelligence et le don de piété et le don de sagesse. Le don de sagesse parce que l'esprit de virginité conduit à la contemplation. Saint Thomas est très net là-dessus. Il dit qu'on ne peut vivre de l'esprit de virginité que si on aspire à la contemplation. C'est la contemplation qui nous permet de vivre de l'esprit de virginité. Et c'est un état. C'est un état, un esprit, avant d'aller toujours plus loin. On se connaturalise avec le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Il n'y a pas de limite dans l'esprit de virginité. Et alors lui est le même partout. Mais je ne vais pas dire qu'il y a un esprit de virginité européen, un esprit de virginité africain, un esprit de virginité américain, australien, et ainsi de suite. L'Esprit Saint est le même. Et ça, c'est très très important. Parce que vous pouvez vivre de l'esprit de virginité. Et vous devez en vivre. Et tout prêtre, au dire du Saint-Père, qu'il soit diocésain ou qu'il soit religieux, tout prêtre doit vivre de l'esprit de virginité. J'allais presque dire qu'il soit orthodoxe ou catholique. Puis, puisque je dis orthodoxe, il peut y avoir des prêtres mariés. Et doivent vivre cet esprit de virginité. Pour permettre à l'exercice du sacerdoce de pouvoir se réaliser dans une grande intensité d'amour. Et cela exige, puisque ça touche la charité, ça exige un certain style de vie. Ça, c'est sûr. C'est sûr que pour vivre un esprit de virginité, il faut consacrer du temps à l'oraison. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il faut un certain temps consacré à l'oraison. Et on ne peut pas garder un esprit de virginité si, de fait, il n'y a pas cette soif de contemplation. Alors, la contemplation finalise l'esprit de virginité et l'esprit de virginité est garant de la contemplation. Quand il n'y a plus l'esprit de virginité, je crois qu'il ne peut plus y avoir de contemplation. Va s'incarner dans notre vœu de chasteté. Le vœu de chasteté, c'est une vertu acquise. On ne naît pas avec la vertu de chasteté. Et très vite, la puissance de la chair se fait sentir en nous très diversement. Ça, c'est très vrai que ça touche le caractère individuel de chacun d'entre nous. Et il y a tout un atavisme. Si vous aviez un arrière-grand-père ou un grand-père qui était un noceur de le premier ordre. Ouais, les dents des petits-fils en sont agacées. Et Dieu le sait, heureusement. Et donc, vous serez beaucoup moins coupable. C'est pour ça que là encore, on ne peut pas. On ne peut jamais juger l'extérieur. Certains peuvent être beaucoup plus vertueux. Hélas, ayant des chutes verticales, que d'autres qui n'ont extérieurement aucune chute. Et cependant qu'ils ne luttent pas. Ce qui est important pour Dieu, c'est de voir qu'on veut cet esprit de chasteté. Qu'on veut acquérir cette vertu de chasteté. On doit tendre vers cette vertu de chasteté. Normalement, j'allais dire, dans les bonnes familles chrétiennes, anciennes, je dis anciennes parce qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, les vocations naissaient dans ces familles. Et donc il y avait une vertu de chasteté acquise quand on entrait au couvent. Ce qui n'empêchait absolument pas que cette vertu de chasteté demande tout le temps d'être réactuée par des actes. Je ne dis pas que la vertu de chasteté s'use, elle ne s'use pas. Mais normalement, les luttes peuvent être de plus en plus fortes. Et donc, exigent de la vertu de chasteté un enracinement toujours plus profond dans notre concupiscible charnel. Il y a ce concupiscible charnel qui, à cause et conséquence du péché originel, fait que la passion du concupiscible risque toujours de l'emporter. La passion du concupiscible, c'est l'attraction, l'attirance très forte des jouissances charnelles. Aussi bien les jouissances charnelles de la nourriture et de la boisson que les jouissances charnelles au point de vue sexuel. Alors c'est ici où je crois qu'il faut comprendre, et j'y reviendrai, parce que c'est très important pour nous de faire cette distinction que les anciens faisaient. Les anciens, c'est Aristote et saint Thomas. Distinction de la vertu de tempérance et de la vertu de chasteté. C'est pas la même vertu, mais elles sont très liées. Autrement dit, distinguer ce que représente la concupiscence à l'égard du boire et du manger. Et on comprend très bien ça. On a beaucoup d'appétit quand on nous sert des choses qui sont bonnes, quant à notre goût. Et on n'a pas du tout d'appétit quand on nous sert des choses douteuses. Avoir du goût, c'est une qualité. Il y a des personnes qui peuvent manger sans rien sentir. C'est pas une qualité. C'est une insensibilité. Je ne dis pas tant mieux pour elle. Non. Pour le vieil Aristote, la sensibilité, c'est le pire des vices. Parce que l'homme n'est pas fait pour ça. La vertu de tempérance est là pour permettre de se nourrir, de boire et de manger. Se nourrir dans le sens où l'épanouissement spirituel pourra le mieux se développer. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ça. Et à côté de la vertu, tempérance, il y a toutes des modalités différentes. Pendant le temps du carême, jeûner. Il y a le jeûne communautaire. J'espère qu'on le maintiendra. Puis il y a le jeûne individuel et personnel. Et j'espère qu'il existera. Parce qu'on doit tous, pendant le temps de carême, voyez, réactuer, comme on aiguise des couteaux, vous savez, réactuer notre vertu de tempérance. Parce qu'on l'a peut-être acquise, puis une fois qu'on l'a acquise, on est sur le haut plateau, on s'en occupe plus. Puis tout d'un coup, on se réveille, se laissant entièrement conduire par le pot de confiture. Et si personne n'était là, on le viderait facilement. Et on doit tout le temps reprendre la vertu de tempérance. C'est une vertu très incarnée. Mais c'est une vertu aussi qui se perd ou qui manque de force. Alors on doit tout le temps reprendre cela. Et la vertu de tempérance est utile pour se dominer. Pour se dominer. Et on doit faire des actes de vertu. Et on doit demander à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie de nous aider à être tempérants. Vous voyez, il n'y a rien qui scandalise plus le bon peuple chrétien de voir un religieux qui n'est pas tempérant. C'est scandaleux. chacun d'entre nous, c'est différent. On n'est plus du temps où on donnait exactement le même poids de pain à tous les religieux. Les jours de jeûne. Et le grand jeûne commençait le 15 septembre jusqu'au Pâques. J'ai vécu ça. C'est pour ça que je suis un peu fragile, vous voyez. Parce que on a vécu ce point de vue du grand jeûne. 15 septembre. Il n'existe plus maintenant parce que l'Église a jugé qu'il valait mieux. Plus. Et il y a le carême qui existe. Avant le carême, ne louchez pas sur votre voisin. Il faut que chacun règle ça avec son père maître ou son père spirituel. Et toujours le père maître, puisqu'il s'agit du fort externe. Il faut être prudent. Tout exercice des vertus implique la prudence. Il y a une vertu de tempérance acquise. Il y a une vertu infuse de tempérance qui nous est donnée par la grâce. Et l'exercice de la vertu de prudence peut être sous la mouvance de l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit. Alors là, il y a quelque chose de très particulier. C'est l'Esprit Saint qui lui-même s'empare de nous pour faire que nous faisons des actes héroïques de tempérance. Il faut de temps en temps en faire quand les supérieurs nous le demandent ou sont d'accord et qu'on se sent poussé par l'Esprit Saint. Jeûner au pain et à l'eau, par exemple, puisque nos sœurs le font. Il faut que là encore, si elles sont incapables de leur devoir d'État, elles doivent être attentives à ça. Elles doivent prévenir l'autorité. Et si l'autorité dit « ça n'a aucune importance, je vous demande de jeûner », on accepte. C'est notre corps qui pâtit. Très bien. On va pas se mettre à dire « vous n'y comprenez rien, il faut que de voir... » Non. Les supérieurs ont grâce d'État. Alors, à côté de la tempérance, il y a le voile de la chasteté. La chasteté porte sur tout ce qui n'analyse plus la vertu par l'objet, mais il regarde uniquement l'exercice des vertus. Or, il est évident qu'au point de vue exercice des vertus, les deux sont très liés. C'est les vertus qui luttent contre le concupiscible charnel. Et le concupiscible charnel a deux aspects. L'aspect de la nourriture, l'aspect de la boisson, et puis le concupiscible qui relève, le concupiscible qui est ordonné plus exactement, ou bien de l'espèce, la procréation. Il y a deux aspects qui sont, que Saint Thomas distingue à la suite.